Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. Rejoignez le partenariat transpacifique, l'Indonésie sera le surplus économique de 34 trillions rupiah. Le ministre indonésien des Affaires étrangères a rencontré l'ambassadeur de Myanmar pour discuter des Rohingyas à Myanmar. Les hommes d'affaires de Mindanao sont intéressés à augmenter les affaires avec l'Indonésie. L'Indonésie est sécuritaire du tsunami au Japon. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le conseiller principal pour l'économie et les politiques publiques de l'Australie-Indonésie de partenariat pour la gouvernance économique, M. Ahmad Sauki, a déclaré des impacts positifs et négatifs si l'Indonésie a rejoint le partenariat transpacifique. Dans la série de dialogues politiques qui a été organisée par le ministère du Commerce le mardi 23 novembre 2016, Ahmad Sauki a expliqué que l'accord de partenariat transpacifique qui a été initié par les États-Unis affectera 38 entreprises d'État. Les entreprises d'État ou BUMN qui sont touchées sont les entreprises publiques contrôlées par le gouvernement avec des revenus commerciaux annuels plus de 3,7 millions de rupiah. En rejoignant le TPP qui améliorera le climat de la concurrence internationale, l'Indonésie devrait avoir un excédent de 34 trillions de rupiah. Sur la base de notre calcul, les consommateurs recevront un excédent supplémentaire de 92,5 trillions de rupiah. Cependant, les fabricants auront un excédent négatif d'environ 58,1 trillions de rupiah. Au total, nous avons encore un excédent économique de 34,4 trillions de rupiah. Selon Ahmad Sauki, on estime par une concurrence accrue, les prix vont baisser d'environ 10%. Cela augmentera le pouvoir d'achat et le choix du peuple. Du côté du gouvernement, il y aura une augmentation du montant de dividendes et les impôts de société qui seront payés par les entreprises non étatiques. Mais d'autre part, TPP a l'impact négatif sur la réduction de l'emploi de BUMN. En outre, la dividende et l'impôt sur les sociétés qui sont payés par BUMN diminueront de 6,5 trillions de rupiah. Deux membres d'équipage ou ABK des citoyens indonésiens ont été enlevés par des hommes armés le 19 novembre 2016 dans les eaux de Sabah en Malaisie. Concernant cette question, le ministre indonésien de la Défense, M. Ria Mizar Triakudu, a déclaré aux médias mardi à Jakarta que l'Indonésie a demandé aux propriétaires de navires de la société malaisienne d'être responsables de l'enlèvement des deux citoyens indonésiens qui étaient faits par deux groupes armés. Je demande au ministre de la Défense de la Malaisie et à l'ambassadeur qui est là pour rappeler les propriétaires de navires d'être responsables. Nous allons commencer à mener des opérations là-bas. Le ministre de la Défense, M. Ria Mizar-Tiakudu, a également demandé au gouvernement malaisien de rappeler à l'entreprise propriétaire de navires afin de donner la protection aux citoyens indonésiens. Le ministre Ria Mizar-Tiakudu a également regretté le retour de l'enlèvement dans les eaux malaisiennes. Les deux pays ont une coopération bilatérale, nécessite un processus pour être en mesure de libérer les otages. Le ministère indonésien des Affaires étrangères, par l'intermédiaire du directeur général pour l'Asie et Pacifique, M. Desra Percaya, a rencontré l'ambassadeur de Myanmar en Indonésie lundi. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que cela est fait pour obtenir des informations sur l'état actuel des ethnies de Rohingyas qui ont été soumises à des atrocités militaires Myanmar. Retno Marsudi, au palais présidentiel à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie encourage toujours l'amélioration de la situation dans l'état fédéral de Rakhine. Selon elle, l'Indonésie a fait beaucoup d'efforts diplomatiques pour améliorer la situation de la sécurité et le bien-être à Rakhine. Mme Retno Marsudi a déclaré que cet effort diplomatique était l'une de ses formes, à savoir établir la coopération avec le gouvernement de Myanmar liée à la démocratie, les droits de l'homme et la décentralisation. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les hommes d'affaires de Mindanao, au sud des Philippines, ont exprimé leurs intérêts à intensifier la coopération commerciale avec les hommes d'affaires en Indonésie, notamment dans le nord de Sulawesi. Donc, la distance est relativement proche de la zone dans la partie sud des Philippines. La déclaration écrite du premier secrétaire du Consul de l'information et socioculturelle du Consulat général à Davao City, aux Philippines, Enda R. Yuliarty Fahri, reçue par Antara à Jakarta mardi, a déclaré l'intérêt des hommes d'affaires de Mindanao pour accroître les affaires avec ses partenaires en Indonésie a été transmis par le chef de la Chambre régionale de commerce d'industrie de Mindanao du Sud-Est, Raymond Salangsang. Selon Enda Yuliarty Fahri, le même désir a également exprimé par les autres hommes d'affaires à Mindanao dans le forum sur faire des affaires en Indonésie tenu à General Santos City au sud des Philippines, environ 154 km de Davao City, le 16 novembre 2016, qui a également été assisté par le consul général de l'Indonésie à Davao City, Berlian Napitupulu. L'organisation de ce forum vise à plus connaître le potentiel de commerce et d'investissement proposé par l'Indonésie, notamment par la province du nord de Sulawesi, qui deviendra une liaison pour les navires de Roro navigant de Davao City et General Santos City. Lors du forum assisté par environ 60 hommes d'affaires de General Santos City et Davao City, Consul Berlian a déclaré sur le potentiel économique, les affaires, la réglementation d'exportation-importation et la facilité du processus d'investissement en Indonésie, notamment au nord de Sulawesi. Les zones côtières de l'Indonésie étaient sécuritaires du tsunami au Japon, qui n'ont pas d'impact de tsunami causé par le séisme de magnitude de 6,8 qui a secoué la région de Fukushima et Koriyama, le Japon, lundi. Le chef de centre de séisme et de tsunami de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique, M. Mohamad Riyadi, a déclaré mardi que l'analyse et la modélisation de tsunami effectuée par BMKG montre que tsunami n'a pas d'impact dans les régions de l'Indonésie. Pour cela, résidences côtières en Indonésie sont demandées à rester calmes et ignorer la question irresponsable. Cher ami, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Rohingya, son histoire aujourd'hui ». Il y a encore le nettoyage ethnique contre les Rohingyas au Myanmar. Une organisation des droits de l'homme, Human Rights Watch, a publié des photos satellites montrant des centaines de bâtiments qui ont été détruits à la fin de la semaine dernière dans l'état de Rakhine. Les maisons qui ont été détruites pendant un mois et demi ont atteint plus de 1000 maisons. L'armée de Myanmar a effectué l'opération dans l'état de Rakhine, mais l'autorité refuse que les militaires fassent la démolition de maisons. Le gouvernement a déclaré que l'incendie est fait par les Rohingyas pour attirer l'attention internationale. Les médias étrangers comme BBC n'ont pas pu confirmer les nouvelles rapportées par Human Rights Watch, mais l'agence presse de la France a rapporté que 125 musulmans Rohingyas ont été expulsés par les officiers de la garde côtière du Bangladesh. Ils ont fui les troubles et violents au Myanmar. Les officiers ont fait les patrouilles sur la rivière de Naf, la frontière du Bangladesh avec le Myanmar. Le porte-parole présidentiel de Myanmar, Zaw Thaï, a accusé Human Rights Watch de faire les rapports exagérés. L'armée de Myanmar a mené des opérations militaires dans l'état de Rakhine. À partir d'octobre, après, 9 policiers ont été tués dans des attaques contre des postes frontières à Mandaue. Le gouvernement a accusé le groupe militant Rohingya était derrière l'attaque. Les activistes des droits de l'homme ont dit que plus de 100 personnes ont été tuées et des centaines de personnes ont été arrêtées dans une opération militaire. Environ 30 000 personnes ont été déplacées par la violence à Rakhine. La moitié de ce montant, selon l'ONU, ont fui la semaine dernière lorsque des centaines de personnes ont été tuées dans des affrontements avec l'armée. La violence est devenue un nouveau problème pour le gouvernement démocratique de Myanmar, dirigé par l'activiste de la démocratie, Aung San Suu Kyi. L'état de Rakhine devient la zone de conflit sectaire lorsqu'il y a violence entre les résidents locaux avec la minorité Rohingya qui a tué plus de 100 personnes il y a 4 ans. Actuellement, 1 million Rohingyas vivent au Myanmar. Ils sont venus du Bangladesh et sont considérés comme des immigrants illégaux par le Myanmar, de sorte qu'ils ne reçoivent pas la citoyenneté. La violence a fait les gens s'enfuir vers les pays voisins comme la Malaisie, mais les autorités de ce pays ont explosé et ont brûlé dans les eaux d'Aceh l'Indonésie. Bien qu'ils soient heureux de rester en Indonésie, mais l'Indonésie ne comprend pas les pays qui ont signé le traité pour accueillir les réfugiés. Les bonnes nouvelles sont les États-Unis qui sont prêts à accueillir les réfugiés de Rohingyas à Aceh. Selon le responsable de l'immigration de l'Indonésie, au début de novembre, les États-Unis sont prêts à devenir un pays d'accueil des réfugiés de Rohingyas. Nous avons certainement triste d'attendre qu'il y ait encore des conflits sectaires à Rakhine qui afflige la minorité musulmane au Myanmar. En tant que pays membre de l'ASEAN, l'Indonésie doit rappeler au Myanmar pour aider à protéger l'existence des minorités et rappeler les pays musulmans pour aider les Rohingyas qui ne veulent plus habiter au Myanmar. Une ironie si les pays non musulmans tels que les États-Unis étendent la main aux Rohingyas. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'est Jamil Lantan, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons aujourd'hui avec l'événement, une série de tremblements de terre qui ont frappé la région du sud de l'Italie le 23 novembre. Trois secousses de magnitude 6,1, 5,5 et 4,9 ressenties jusqu'à Naples ont touché la région de Marche sans faire de victimes. De nombreux dégâts matériels sont tout de même à déplorer. Ces trois nouvelles secousses sismiques sont venues inquiéter une population déjà meurtrie. Il y a 2 mois seulement, un précédent séisme laissait près de 300 morts dans la région. Cette fois, la série de tremblements de terre qui a secoué le centre de l'Italie mercredi soir n'aura pas fait de victimes. Les informations ne sont pas aussi catastrophiques que ce que nous redoutions, a déclaré Fabrizio Curcio, le chef de la protection civile. Des dizaines de personnes avaient été légèrement blessées, a-t-il précisé 5 heures d'après les faits. 4 souffraient de blessures graves n'engagent pas leur pronostic vital. Un homme d'environ 60 ans est cependant décédé dans la localité de Tolentino, vraisemblablement d'une crise cardiaque. Les tremblements de terre se sont produits à environ 2 heures d'intervalle à partir de 19h. Le premier état d'une magnitude de 5,4, le second de 6,1 et le troisième d'une magnitude de 4,9 selon l'Institut américain de géophysique, l'USGS. Les épicentres des 2 premiers séismes se trouvaient tous deux près de la ville de Castel Sant'Angelo sul Nera, dans la région des Marches, à quelques dizaines de kilomètres au nord de la région d'Amatrice. Ces secousses ont été suffisamment fortes pour être ressenties à plus de 250 km au sud. Jusque dans la banlieue de Naples, le séisme de mercredi soir pourrait être lié à celui de 24 autres qui avait été suivi des milliers de répliques parfois fortes. L'autre information est sur l'Egypte Air, le vol 688 a été détourné lors d'atterrir à Malte. Le 23 novembre 1945, le vol Egypte Air 688 devait effectuer la liaison entre l'Athènes et la capitale égyptienne, le Caire. Alors, il prenait normalement son envol aux alentours de 20 heures. L'avion est détourné de 3 Palestiniens, membres du groupe terroriste Abu Nidal, à peine 10 minutes plus tard. Ces dernières, les armées de fusils et de grenades, subiront l'intervention d'un agent de sécurité égyptien présent à bord et qui tuera l'un d'eux. S'ensuit une fusillade qui aura raison de l'agence de sécurité en question avant que des otages ne soient exécutés pour dissuader les autres passagers d'intervenir. Mais la fusillade a endommagé l'appareil et son fuselage entraînant une dépressurisation rapide. Cela pousse le pilote à diminuer son altitude jusqu'à 14 000 pieds, ou ce qui équivaut à environ 4 300 mètres. Conscient du problème, le terroriste force le pilote à atterrir à l'aéroport de Lucca ou La Valette au Malte en pleine nuit, et malgré le refus de l'aéroport et l'extension des lumières de la piste d'atterrissage, l'avion pose normalement ses roues sur le sol maltais. À l'aube, un commando égyptien ordonne l'assaut. C'est le début du carnage qui verra périr 61 personnes. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons maintenant la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis de l'antenne, nous continuons notre programme avec la mise au point sur l'environnement et pour le titre, l'approbation de Paris sur le changement climatique est appliquée en 2018. La 22e conférence sur les changements climatiques des parties au COP22 à Marrakech au Maroc était fermé samedi le 19 novembre. Les participants à la conférence ont convenu la discussion de la mise en œuvre de l'accord de Paris qui sera poursuivie à la prochaine conférence en 2018 dans Bonn, en Allemagne. Mais l'Indonésie espère que la coopération internationale peut être appliquée en 2017. Comme affirmé le ministre indonésien de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, comme cité par Kompas, Siti Nurbaya expliquait en envoyant l'état prolongé, l'Indonésie a décidé d'intensifier la coopération bilatérale entre les pays. Lors de la clôture de la séance, l'équipe de négociation indonésienne est dirigée par le directeur général du contrôle du changement climatique, Nurmas Sripatin. Dans sa déclaration écrite, Nurmas Sripatin a invité tous les participants à assurer le paiement de l'engagement des centaines de milliards de dollars américains en 2020. Il a mis en garde les États-Unis ne vient de payer 50 000 dollars américains. L'approbation de l'accord est produite lors de la 21e COP à Paris en 2015 et est valable le 4 novembre 2016. Après plus de 55% des pays participants ratifiés, qui couvrent plus de 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. À la COP à Marrakech, la ministre Siti Nurbaya a tenu les réunions bilatérales avec ses collègues de 16 pays, entre autres, par le secrétaire d'État américain John Kerry. Lors de cette réunion, ils ont discuté des fonds d'aide provenant de l'étranger à utiliser dans une variété de plateformes. La ministre Siti Nurbaya a encouragé la formation d'une sorte d'organisme de service public pour gérer tous les fonds liés à des questions environnementales ou le développement durable. Pendant ce temps, un activiste de Greenpeace de l'Indonésie, Arif Fianto, qui a également assisté à la 22e COP, a rapporté qu'il y avait 40 petits États les plus vulnérables touchés par le changement climatique. Ils sont membres du Forum vulnérable climatique et étaient désireux d'utiliser 100% de l'énergie renouvelable en 2030 et 2050. L'Indonésie est incluse dans les pays qui sont ciblés pour réduire les émissions de 29% en 2030. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le conseiller principal pour l'économie et les politiques publiques de l'Australie-Indonésie de partenariat pour la gouvernance économique, M. Ahmad Sauki, a déclaré des impacts positifs et négatifs si l'Indonésie a rejoint le partenariat transpacifique. Dans la série de dialogues politiques qui a été organisée par le ministère du Commerce le mardi 23 novembre 2016, Ahmad Sauki a expliqué que l'accord de partenariat transpacifique qui a été initié par les États-Unis affectera 38 entreprises d'État. Les entreprises d'État ou BUMN qui sont touchées sont les entreprises publiques contrôlées par le gouvernement avec des revenus commerciaux annuels plus de 3,7 millions de rupiah, en rejoignant le TPP qui améliorera le climat de la concurrence internationale, l'Indonésie devrait avoir un excédent de 34 trillions de rupiah. Sur la base de notre calcul, les consommateurs recevront un excédent supplémentaire de 92,5 trillions de rupiah. Cependant, les fabricants auront un excédent négatif d'environ 58,1 trillions de rupiah. Au total, nous avons encore un excédent économique de 34,4 trillions de rupiah. Selon Ahmad Sauki, on estime par une concurrence accrue, les prix vont baisser d'environ 10%. Cela augmentera le pouvoir d'achat et le choix du peuple. Du côté du gouvernement, il y aura une augmentation du montant de dividendes et les impôts de société qui seront payés par les entreprises non étatiques. Mais d'autre part, TPP a l'impact négatif sur la réduction de l'emploi de BUMN. En outre, le dividende et l'impôt sur les sociétés qui sont payés par BUMN diminueront de 6,5 trillions de rupiah. Deux membres d'équipage ou ABK des citoyens indonésiens ont été enlevés par des hommes armés le 19 novembre 2016 dans les eaux de Sabah en Malaisie. Concernant cette question, le ministre indonésien de la Défense, M. Riamizar Triakudu, a déclaré aux médias mardi à Jakarta que l'Indonésie a demandé aux propriétaires de navires de la société malaisienne d'être responsables de l'enlèvement des deux citoyens indonésiens qui étaient faits par deux groupes armés. Je demande au ministre de la Défense de la Malaisie et à l'ambassadeur qui est là pour rappeler les propriétaires de navires d'être responsables. Nous allons commencer à mener des opérations là-bas. Le ministre de la Défense, M. Riamizar Triakudu, a également demandé au gouvernement malaisien de rappeler à l'entreprise propriétaire de navires afin de donner la protection aux citoyens indonésiens. Le ministre Riamizar Triakudu a également regretté le retour de l'enlèvement dans les eaux malaisiennes. Les deux pays ont une coopération bilatérale, nécessite un processus pour être en mesure de libérer les otages. Le ministère indonésien des Affaires étrangères, par l'intermédiaire du directeur général pour l'Asie et Pacifique, M. Desra Percaya, a rencontré l'ambassadeur de Myanmar en Indonésie lundi. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que cela est fait pour obtenir des informations sur l'état actuel des ethnies de Rohingyas qui ont été soumises à des atrocités militaires Myanmar. Retno Marsudi, au palais présidentiel à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie encourage toujours l'amélioration de la situation dans l'état fédéral de Rakhine. Selon elle, l'Indonésie a fait beaucoup d'efforts diplomatiques pour améliorer la situation de la sécurité et le bien-être à Rakhine. Madame Retno Marsudi a déclaré que cet effort diplomatique était l'une de ses formes, à savoir établir la coopération avec le gouvernement de Myanmar liée à la démocratie, les droits de l'homme et la décentralisation. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les hommes d'affaires de Mindanao, au sud des Philippines, ont exprimé leurs intérêts à intensifier la coopération commerciale avec les hommes d'affaires en Indonésie, notamment dans le nord de Sulawesi. Donc, la distance est relativement proche de la zone dans la partie sud des Philippines. La déclaration écrite du premier secrétaire du Consul de l'information et socioculturelle du Consulat général à Davao City, aux Philippines, Enda R. Yuliarte Fahri, reçue par Antara à Jakarta mardi, a déclaré l'intérêt des hommes d'affaires de Mindanao pour accroître les affaires avec ses partenaires en Indonésie a été transmis par le chef de la Chambre régionale de commerce d'industrie de Mindanao du Sud-Est, Raymond Salangsang. Selon Enda Yuliarte Fahri, le même désir a également exprimé par les autres hommes d'affaires à Mindanao dans le forum sur faire des affaires en Indonésie tenu à General Santos City au sud des Philippines, environ 154 km de Davao City, le 16 novembre 2016, qui a également été assisté par le consul général de l'Indonésie à Davao City, Berlian Napitupulu. L'organisation de ce forum vise à plus connaître le potentiel de commerce et d'investissement proposé par l'Indonésie, notamment par la province du nord de Sulawesi, qui deviendra une liaison pour les navires de Roro navigant de Davao City et General Santos City. Lors du forum assisté par environ 60 hommes d'affaires de General Santos City et Davao City, Consul Berlian a déclaré sur le potentiel économique, les affaires, la réglementation d'exportation-importation et la facilité du processus d'investissement en Indonésie, notamment au nord de Sulawesi. Les zones côtières de l'Indonésie étaient sécuritaires de tsunami au Japon, qui n'ont pas d'impact de tsunami causé par le séisme de magnitude de 6,8 qui a secoué la région de Fukushima et Koriyama, le Japon, lundi. Le chef de centre de séisme et de tsunami de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique, M. Mohamed Riadi, a déclaré mardi que l'analyse et la modélisation de tsunami effectuée par BMKG montre que le tsunami n'a pas d'impact dans les régions de l'Indonésie. Pour cela, résidences côtières en Indonésie sont demandées à rester calmes et ignorer la question irresponsable. Serge Ami, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter l'une des destinations touristiques en province de Java West. Chers auditeurs, Garut est une résidence dans la province de Java West, en Indonésie. Cette résidence borde avec la résidence de Sumedang au nord, la résidence de Tasikmalaya à l'est, l'océan Indien au sud et la résidence de Cianjur et Bandung à l'ouest. Garut a une superficie d'environ 3 065,19 km². La plupart des zones à Garut est montagneuse. Pas étonnant si les montagnes sont utilisées comme attraction touristique excellente. En plus de montagnes, à Garut, il y a beaucoup de très beautés naturelles cachées. L'une d'elles est le site touristique de Curug Orok. Curug Orok est l'une des nombreuses cascades à Garut. Cette cascade est située dans le village Cikandang, Garut, l'ouest de Java. La distance de voyage pour arriver à ce site touristique est environ 25 km du centre-ville. La route qui doit être passée est les routes de Cimanuk, Biombong et Cisurupan. Bien que le voyage soit assez long, mais il n'a pas été ressenti parce que les touristes seront divertis par un magnifique paysage naturel provenant du mont Papandayan et le mont Cikurai. Après avoir passé cette route, les voyageurs doivent passer le chemin vers la zone de plantation de Nusantara 8 Papandayan. L'emplacement de Curug Orok est à environ 300 mètres de la route principale. Curug ou Cascade Orok est situé dans une vallée. Les touristes qui veulent visiter cet endroit ont dû descendre des centaines de marches. Beaucoup d'arbres verts qui poussent autour de la cascade. Les arbres fournissent la belle atmosphère et l'air frais. Dans cet endroit, il y a plusieurs curugs ou cascades. La cascade principale a une hauteur d'environ 45 mètres. Dans les environs, il y a plusieurs mini-cascades qui rendent le paysage plus beau. Comme nous savons que cette cascade est devenue l'objet et l'attraction touristique assez longtemps. Par conséquent, chaque week-end et les jours fériés, cette attraction touristique est visitée par de nombreux touristes. Cette cascade est appelée Curug Orok ou Curug de bébé parce que selon les histoires locales, en 1968, il y avait une jeune femme qui a jeté son bébé à partir du haut de la cascade. Voilà pourquoi cette cascade est appelée Curug Orok ou Curug de bébé. Le frais d'entrée dans cette attraction est très abordable. Chaque personne doit payer le billet d'entrée de 10 000 rupiah. Pour les touristes qui prennent la voiture sans facturer le frais supplémentaire. Pour le coût d'un parking de véhicule à deux roues, il vaut payer environ 2 000 rupiah et 5 000 rupiah pour le véhicule à quatre roues. Chers auditrices et chers auditeurs, c'est le magazine Culture pour ce soir avec le titre Churuk Orok ou Cascade de bébé à Garut en province de Java West. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est menjahit tas. Je répète, menjahit tas. Ou en français, coudre le sac. Allons-y. Je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et des expressions reliant au thème d'aujourd'hui. Menjahit tas. Menjahit tas. En français, coudre le sac. Melakukan apa? Melakukan apa? En français, que fais-tu? Memasak. Memasak. En français, faire la cuisine. Tolong jahitkan. Tolong jahitkan. En français, pourrais-tu coudre? Tas yang sobek. Tas yang sobek. En français, le sac déchiré. Siapkan. Siapkan. En français, préparer. Benang jahit. Benang jahit. En français, le fil. Jarum jahit. Jarum jahit. En français, l'aiguille à coudre. Gunting. Gunting. En français, les ciseaux. Silette. Silette. En français, le rasoir. Bagian mana? Bagian mana? En français, quelle partie? Bagian dalam. Bagian dalam. En français, l'intérieur. Bagian luar. Bagian luar. En français, l'extérieur. Saku. Saku. En français, la poche. Jahit. Jahit. En français, coudre. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Chers amis, maintenant, je vais mettre des vocabulaires et les expressions dans une conversation intitulée menjahit tas. Menjahit tas, ou en français, coudre le sac. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation entre Nina A et la mère de Nina B. A. Ibu sedang melakukan apa? Ibu sedang melakukan apa? En français, maman, que fais-tu? B. Saya sedang memasak. Saya sedang memasak. En français, je suis en cours de faire la cuisine. B. Ibu, tolong jahitkan tasku yang robek. Ibu, tolong jahitkan tasku yang robek. En français, maman, pourrais-tu coudre mon sac déchiré? B. Baiklah, tolong kamu siapkan benang jahit, jarum jahit, silet, dan gunting. Baiklah, tolong kamu siapkan benang jahit, jarum jahit, silet, dan gunting. En français. D'accord, prépare le fil, l'aiguille, le rasoir et les ciseaux, s'il te plaît. A. Bagian mana yang robek? Bagian mana yang robek? En français, quelle partie est-elle déchirée? B. Bagian dalam dan bagian luar dekat saku. Bagian dalam dan bagian luar dekat saku. En français, l'intérieur et aussi l'extérieur à côté de la poche. Bawa tasmu ke sini, ibu jahit sekarang. Bawa tasmu ke sini, ibu jahit sekarang. En français, prends le sac ici, je vais le coudre. B. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. En français, d'accord, merci. Chers amis, voilà cette édition du programme Apprendre l'indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci à écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le magazine musical qui s'agit des musiques traditionnelles et pop d'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop, Nika Ardila. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson de Nika Ardila intitulée Étoile de vie. Bonne écoute.
Sekali
Serguita, vous venez d'écouter la chanson de Nick Ardila intitulée Étoile de vie, qui est une chanson du 10e album. Cette chanson raconte l'échec de l'amour, mais il était sûr un jour, le bonheur qui rêve viendra. Cette chanson est composée par Dedi Dorès. Les chansons chantées par Nick Ardila ont bien accepté par les amateurs de musique indonésienne. L'album Étoile de vie a été bien vendu, à savoir 2 millions de copies. Ce succès a conduit Nick de gagner le prix de BASF comme meilleure vente d'album en 1990 pour la chanson Étoile de vie. L'année précédente, le premier album de Nick, intitulé Un faisceau de lumière, vendu à plus de 500 000 copies. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson de Nick Ardila intitulée Un faisceau de lumière. Bonne écoute.
Dalam cinta.
Sixième Lointaine, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse, Nika Ardila. Nika Ardila a le nom complet Raden Rara Nika Ratnadila Kusnadi, née à Bandung, Java Est, le 27 décembre 1975. Elle était une chanteuse et actrice kono-indonésienne. Elle est une chanteuse talentueuse qui a donné la couleur dans le monde de la musique indonésienne. Bien que sa carrière dans le monde du divertissement soit relativement courte, mais une série de réalisations et de prix de la musique ont été gagnés, entre autres, le prix d'or du Festival de chant asiatique en 1991, meilleure vente de l'album indonésien en Malaisie, Anugerah Musik en 1994, Runner-up Best Performer ABU Golden Kite World Song Festival KL en Malaisie 1994 et premier champion de la chanson pop de Hapmi 1985. Elle est décédée à Bandung le 19 mars 1995 lorsque sa voiture qu'elle conduisait a frappé le béton sur la route de R.E. Marta Dinata dans la ville de Bandung. Elle est morte au milieu de sa popularité. Pendant l'histoire du divertissement en Indonésie, c'est seulement Nika Ardila, une actrice unique qui a reçu la plus haute distinction dans laquelle chaque la date de sa naissance et de sa mort sont toujours célébrées. Pour apprécier Nika Ardila, un musée est construit sur la rue Soekarno-Hatta, Bandung. Tous les marchandises de Nika Ardila sont mis dans ce musée, y compris les vêtements portés lors de l'accident et une réplique de sa chambre. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Nika Ardila intitulées « Deru Debu » et « Sandiwara Cinta ». Bonne écoute et au revoir. C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.